Radio Okapi.
Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Au menu, quelles sont les dispositions légales pour acquérir la nationalité congolaise? Eh bien, nous en parlons dans ce nouveau numéro avec Maître Laurent Onyemba, avocat au barreau de Kinshasa. Matiti, il est avec nous dans ces studios. Maître Laurent Onyemba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et dans la deuxième partie, après le flash d'info de 11h de Kinshasa, on va parler des aspects à tenir compte dans la révision des contrats sino-congolais. Ernest Parero, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, ainsi que sera notre invité. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Polidor Basunga est à la mise en onde. Tatima Poko réalise et coordonne ce nouveau numéro du magazine Okapi Service, présenté par Marcel Ngomobala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour avec ce premier sujet sur les dispositions légales pour acquérir la nationalité congolaise. La RDC compte à ce jour une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, constituée des nationaux mais aussi des étrangers. Parmi les nationaux, l'évidence est telle que tous n'ont pas la nationalité congolaise d'origine, laquelle est délibérément attribuée à une seule catégorie de la population, notamment ceux ou et celles qui sont nés sur les sols congolais. Autre constat, au cours de la rentrée parlementaire du mois de mars dernier, un projet de loi visant à réserver certaines fonctions aux Congolais nés de père et de mère d'origine congolaise a été déposé pour débat à l'Assemblée nationale. Quelles sont les dispositions légales pour acquérir la nationalité congolaise? Quels sont les faits qui peuvent occasionner la perte de la nationalité congolaise? Est-ce que c'est opportun? Quels sont les faits qui peuvent occasionner la perte de la nationalité congolaise? Voilà autant des questions auxquelles nous aurons de réponses avec notre invité, Maître Laurent Onyemba, avocat au barreau de Kinshasa. Matiti, je rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, composez les 081-890-63-94 ou encore les 09-736-63-94. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur sur la page service@radiocapi.net, mais aussi nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, rebonjour à Maître Laurent Onyemba.
Bonjour, bonjour.
Voilà, c'est Onyemba, voilà.
Onyemba, êtes, voilà. Onyemba. Le nom est une institution.
Ouais, exactement. C'est une institution. Voilà, j'ai en face de moi un avocat, un juriste. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matiti. On va parler de la nationalité congolaise. Comment on peut acquérir la nationalité congolaise? Parce que d'après nos sources, on peut acquérir, il y a plusieurs façons d'acquérir la nationalité congolaise. Soit on est congolais d'origine, soit par acquisition, soit par l'effet de la naturalisation, soit d'adoption, soit de mariage. Essayez-nous un peu de décortiquer pour nous un peu ces différents aspects d'acquisition de la nationalité congolaise.
Je vous remercie énormément. Vous allez voir que cette question est en fait abordée dans une dimension triptyque. Il y a la dimension constitutionnelle, il y a la dimension réglementaire et il y a la dimension doctrinale. Dans la dimension doctrinale, l'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger. En effet, dans le souci de bien comprendre, mieux de répondre aux impératifs des conventions internationales, aussi bien que de conjurer des frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale, la loi préconise 5 modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation, l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option.
Mais maître, il faut expliquer quand on dit naturalisation, c'est-à-dire...
Non, je vais d'abord citer.
Ah d'accord, allez-y.
L'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption.
Oui.
L'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage. Et l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo. Chers amis, pour acquérir une nationalité, et celle essentiellement congolaise, il n'y a que ces 5 modalités. La naturalisation, elle est connue. Ça signifie que vous êtes étranger. Vous venez sur un territoire congolais. Vous affichez l'intérêt d'y vivre. Vous avez des raisons et d'ancrage pour finalement convaincre l'administration que vous avez la même valeur avec les autres Congolais, les mêmes appétits, les mêmes préoccupations sur l'épanouissement mutuel de l'individu et de la nation comme de l'État congolais, vous êtes naturalisable congolais. Par l'effet de l'option, ça signifie que vous arrivez et vous pensez que le Congo vous intéresse, vous y approuvez l'intérêt et que vous démontrez que cet intérêt-là est permanent, c'est comme ça que c'est assorti d'un délai. Vous devez vivre au Congo, par exemple, je donne un droit comparé comme au Canada,
oui.
Vous devez avoir fait au Canada 2 ans comme condition. Aux États-Unis, je pense que c'est 4 ans pour aborder la question de l'option d'obtenir la nationalité de ces pays-là, autant qu'au Congo. Et donc, c'est le choix qu'un citoyen quitte un territoire étranger, arrive au Congo, il en justifie encore une fois l'ancrage et l'intérêt par rapport à la nation et il amène comme ressource ce qu'il a et ce qu'il est pour faire avancer la nation congolaise. C'est à ce titre que vous faites le choix, vous optez d'être congolais. La troisième possibilité, c'est l'adoption. Ça signifie que il y a un parent,
oui.
Une personne majeure, congolaise, de nationalité, décide d'adopter un citoyen d'un autre État, d'une autre nation. Par ce fait, vous devez une possibilité, vous pouvez devenir congolais par le fait de l'adoption.
Oui.
Et il n'y a pas une possibilité où c'est un mineur qui adopte un majeur. C'est généralement dans le sens du droit de l'enfant. Et la dernière possibilité, c'est l'adoption, plutôt l'acquisition de la nationalité congolaise, par l'effet de la naissance et de la résidence au Congo. Alors, si vous regardez, parce que la question ici parle des mécanismes de comment acquérir cette nationalité.
Exactement, oui.
Regardez l'écriture de l'article 10 de notre Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. C'est à ce niveau-là que ça commence à poser problème. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. est congolais d'origine. Et c'est cela le sens du débat qui nous intéresse aujourd'hui, parce que je sais qu'on fait allusion à la pauvre, d'ailleurs je n'appelle pas ça une proposition de loi, Tchani, pas que j'appelle ça un projet, pas que il est visible que c'est une initiative du pouvoir en place, dans le sens d'exclure Moïse Katumbi. Alors j'appelle ça moi un projet, parce que c'est en réalité une dynamique politicienne. Alors, un Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, oui, dont les personnes et les territoires constitués à ce qu'est devenu le Congo, présentement la RDC, à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte ou de renouvellement de la nationalité congolaise. Et il y a donc la loi ici, que je veux ramener. Et je vous ai lu la loi. Si vous regardez la lecture combinée de cet article 10, des articles 6, ok, 7, 8, et même 10, 11 de notre constitution, plutôt de la loi organique, répondent à toutes les questions de la nationalité, comment elle s'acquiert et comment on la perd. Mais il y a des éléments qu'il faut absolument ramener dans la dynamique. C'est que quand vous regardez l'article 13, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Que les résultats de la loi, d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de la condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est cela le socle de la faiblesse de l'écriture de ce qu'on a appelé proposition de loi Tchani. Et la doctrine, parce que j'ai parlé de l'approche triptyque, la doctrine démontre en quoi, essentiellement, on ne peut toucher à l'écriture normative, on ne peut toucher à la loi que dans le sens de renforcer des droits et libertés fondamentaux. On ne peut pas toucher à la loi dans le sens de grignoter sur ce droit, oui, et liberté. Maintenant, voilà, je termine parce que l'exposé...
Oui, parce qu'on doit progresser. Allez,
voilà, on va progresser. Oui, oui. Parce que cette question touche à la Constitution et que vous savez que dans la hiérarchie des normes, une loi ne peut venir modifier et énerver la Constitution. Regardez l'intelligence de l'article 219. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens, ben écoutez, le droit, ce n'est pas la plomberie. Le droit, c'est la norme. Que dit l'article 219 de notre Constitution? Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. C'est donc cela le décor juridique qui sous-tend l'analyse de ce qu'on appelait proposition de loi Tchani, au-delà des aspects qui sont du reste extérieurs de l'inopportunité et des autres.
Vous l'avez dit, maître, c'est un projet de loi. Nous, on va plus s'apesantir à vraiment ce qui est important pour aider la population, éclairer la lanterne de la population, comprendre un peu qu'est-ce qu'il en est de l'acquisition de la nationalité congolaise. Vous avez expliqué en tout cas tous les aspects, hein, ou bien si on peut parler de critères qui peuvent amener une personne à avoir la nationalité congolaise. Mmh. Alors là, on va poursuivre avec des auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous avons Éminence Mwanda qui nous appelle de Bukavu, les maître Omar Kigalo qui est à Kinshasa, et également Platini qui est à Mbandaka. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien, Capi Service. Nous parlons avec notre invité, maître Laura Onyemba, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, des dispositions légales pour acquérir la nationalité congolaise. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro des contacts, c'est le 081-890-63-94.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appeler au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Éminence Mwanda nous appelle depuis Bukavu. Bonjour Éminence.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, surtout les militants de LGD et son président national et le sénateur honorable Matata Ponyo. Merci beaucoup pour d'abord la thématique d'aujourd'hui qui est si pertinente. Je sais très bien que l'invité l'a abalé tout l'équivoque que je révique. Nous avions fait les droits à l'université, monsieur, et ce qui est la pratique du droit en RDC, ça peut nous donner des larmes aux yeux, monsieur. Parce que, parlant de la nationalité congolaise, si on voit la Constitution, son article 14, tout ce que l'invité vient de dire là, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on oblige pour qu'on puisse acquérir la nationalité congolaise. Elle est soit d'origine ou soit d'acquisition express. Mais nous savons ce que nous sommes en train de vivre en RDC, monsieur. Je ne sais pas, c'est le contraire de ce que nous avions appris en droit. Nous savons très bien que la politique a ses réalités. J'ai suivi un jour quand la mouvance de l'Union sacrée était née, les gens se sont dit, nous avions décidé, nous qui avions, et nous les législateurs, de piétiner l'article, je crois que 24 de l'Assemblée nationale, et un député qui reconnaît son devoir le micro-métier. Comment nous, qu'est-ce que nous pouvons d'abord nous attendre à ça? Et nous savons, ce que nous pouvons seulement interpeller, je crois que tout le monde est en train de nous suivre. La place que nos amis sont en train d'occuper aujourd'hui, ce sont des places vacantes. Nous devons seulement faire respecter la Constitution. L'article 14 est congolais d'origine. Celui-là, dont ses parents ou l'un d'entre eux a constitué la tribu ou l'ethnie de ce qui est devenu la RDC à son indépendance, que je suis en train de paraphraser plutôt l'invité. Mais messieurs les journalistes, laisse-moi vous dire que notre pays est en train d'être tiré de haut en bas, parce que seule la loi élève la nation. Il y a tout, on est en train de créer tout ce qui peut exister. Même l'article 208 de la Constitution que l'invité vient d'évoquer. Il y a une partie de la RDC qui est sous état de siège. Pourquoi on peut réviser la Constitution? Et dans quel sens? Et dans un pays démocratique, on doit quand même laisser la compétitivité. Parce que quand quelqu'un n'a pas adhéré à l'Union sacrée, il devient une bête à abattre. C'est pas bien ça.
Voilà, merci.
Nous sommes en train de vivre des scénarios qu'on ne peut pas vraiment accepter. Nous sommes des hommes de droit. Moi, je suis un juriste et j'ai fini en droit. Mais quand on est en train d'analyser la gestion du pays, les députés qui se prévaut, députés qui sont en train de dire que nous sommes en train de plaider pour. D'abord, pour ne pas monopoliser la parole, nous sommes ici au Sud Kivu. Il y a trois fois que l'Assemblée provinciale a défi les gouverneurs. Mais il y a un ministre qui était passé à la radio, il a dit que si Kinshasa n'a pas encore dit un mot, si le président de la République a encore la confiance
merci, Éminence. Il faut qu'on reste vraiment sur le sujet. Vous avez dit qu'il faut s'en tenir aux dispositions légales qui sont bien claires par rapport à l'acquisition de la nationalité congolaise. Merci, Éminence Mwanda, d'avoir appelé à Bukavu. Nous rentrons avec Kinshasa. Il faut accorder la parole à Maître Omar Kigalo. Bonjour, Maître Omar.
Bonjour, Monsieur Marcel, et bonjour au confrère Laurent qui est invité de ce jeu.
On vous écoute, Maître Omar.
Merci beaucoup, très cher Marcel. Je voudrais avant tout, à l'égard de l'invité et des autres intervenants, rappeler qu'Okapi Service est une émission pédagogique. Alors, quand l'invité, dès l'éloge de son introduction, dit que Katumbi est discriminé, je crois que la place n'est pas ici. Il doit rester juriste et chercher d'autres cadres pour les analyses politiques. Mais j'apprécie ses interventions. Première question, première préoccupation, je dirais mes contributions. Il faut aussi ajouter qu'en droit congolais, la nationalité ne se présume pas. elle se contacte et elle se trouve. Parce que nombreux ont tendance à croire qu'ils ont les cartes d'électeurs, ils sont congolais. Il y a un document qu'on appelle certificat de nationalité qui prouve suffisamment que tel ou tel n'est pas congolais. Ce n'est pas la physionomie d'une personne, ce n'est pas son visage, ce n'est pas sa couleur de peau, c'est ces documents-là. Mais nous déplorons une chose, je voudrais partager avec l'invité, la manière dont ce certificat est accordé. Ailleurs, il y a toute une administration, parce qu'on ne peut l'accorder qu'à un Congolais, de manière diverse. Donc, c'est la deuxième question. Maître Laurent, quelle est votre réflexion par rapport à la double nationalité? Nous avons fait un constat selon lequel beaucoup de nos compatriotes qui immigrent vers l'étranger changent de nationalité, pas parce qu'ils n'aiment pas le Congo, parce qu'il y a des réalités en présence. Pour avoir des conditions de vie, pour avoir accès à telle chose, il faut changer. Mais fondamentalement, ils demeurent congolais. Il se pose alors un problème d'opportunité de la loi sur la double nationalité. Quel est votre point de vue? Parce que moi, j'ai estimé que cette loi doit être mise à jour pour deux raisons. Premièrement, tous les Congolais qui optent pour la nationalité ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas les Congos par rapport aux réalités. Deuxièmement, si vous visitez les parlements, si vous visitez l'Assemblée nationale, tous ces monoposés politiques ont des nationalités étrangères. Alors, au lieu de cacher tout le temps, au lieu de faire l'hypocrisie, ne peut-on pas modifier la constitution qui consacre l'unicité et l'exclusivité? Dernière préoccupation, j'ai fini par là. Maître Laurent Nyoma, pouvez-vous expliquer aux auditeurs la différence ou les points de convergence ou de divergence entre les nationalismes et les patriotismes? Vous êtes un constitutionnaliste chevronné, là je vous le reconnais. Je crois que cette réponse aiderait les gens à savoir qu'on peut être patriote, même si on a un père étranger. Pouvez-vous définir ou faire la différence entre le nationalisme et le patriotisme? Merci beaucoup, très cher Marcel. Merci à la radio.
Merci, Maître Omar Kigalo, d'avoir appelé depuis Kinshasa. Bonne journée à vous. Platini, vous êtes à Mbandaka. Bonjour, Platini.
Marcel, bonjour. Je salue l'invité du studio avec vous.
On vous écoute, Platini.
Voilà, merci beaucoup Marcel. Je pense que je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat. C'est une émission, c'est un débat purement technique et purement pédagogique aussi. D'ailleurs, je salue le maître, comme il a dit là, il a vraiment évoqué. Mais ce que moi j'ai constaté à maître, c'est le maître. Maître parle, mais il parle pas sur le plan technique. Il parle sur le plan général. Mais nous, on veut que maître vraiment reste sur le plan technique. Parce que c'est ça l'émission. Et c'est un débat qu'on a entendu depuis longtemps.
Mais justement, vous aurez aimé, Platini, c'est quoi votre préoccupation, clairement? Vous aurez aimé que maître explique quel aspect des choses, oui?
Ma préoccupation, Marcel, justement, moi, je voudrais savoir, parce que si on parle sur la nationalité, mais nous, on fait que tout le monde a eu la carte de l'électeur. Donc, la carte de l'électeur prouve qu'il y a quelqu'un qui est dans ce congolais. Alors, si l'invité peut nous dire, est-ce qu'il y a la différence entre le certificat de nationalité ou aussi la carte de l'électeur, parce que nous, le Congolais, aujourd'hui, on marche avec la carte de l'électeur, on sait que non, il a un Congolais, il habite à quelle province, etc., tout ça. Maintenant, la carte de l'électeur, si aujourd'hui, on cherche maintenant à comment bien chercher, donc, si maintenant, on reste dans les débats, et maintenant, nos cartes de l'électeur qu'on a maintenant, donc, il n'y a pas les, donc, on peut dire que non, la carte de l'électeur aujourd'hui, il y a, on ne peut pas considérer, parce que si vraiment on reste dans les débats, alors si vraiment maître peut nous expliquer autour de ça, la différence de carte de lecteur qu'on a maintenant dans nos poches, et aussi la certificat de nationalité. Et deuxième préoccupation, je voudrais à savoir plus, parce qu'on peut dire que non, ça c'est un patriote. Mais quand est-ce qu'on peut appeler quelqu'un patriote? La patriotisme, ça vient d'où? Et on peut attribuer ce nom-là à une personne. Pour quel fait? Et pour citer, moi je fais une proposition. Est-ce que si maître peut nous dire, parce qu'on en parle souvent, s'il y a les ONG étrangères, ONG, etc., tout ça, les chefs des projets, quand ils sont venus ici au niveau du Congo, installent les projets, ce sont les nationalités étrangères. Mais il n'y a pas un soubassement autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas une loi qui maître peut nous plaider. Il n'y a pas une loi qui, si un projet qui devait l'installer, que la personne là peut aussi changer sa nationalité parce que soit un projet, elle reste au Congo pendant au moins 10 ans, une année, 5 ans, tout ça. Mais la personne là, le gestionnaire de ce projet qui se trouve sous place dans le pays, est-ce qu'il n'y a pas possible de changer sa nationalité?
Merci. Merci Platini d'avoir appelé depuis Mbandaka. On revient à notre invité, Maître Laurent Onyema. Vous avez suivi, en tout cas pour le premier intervenant, Éminence Mwanda, qui lui, en tout cas, c'était seulement une contribution. Il a plus insisté sur le fait qu'il faut s'en tenir aux dispositions légales par rapport à l'acquisition de la nationalité congolaise. Et Maître Marc Gallo, lui, est revenu sur la double nationalité, parce que lorsqu'on dit que la nationalité congolaise est une exclusive, alors d'après Maître Omar, vous avez suivi, il y a ceux qui ont cette double nationalité, c'est-à-dire qui ont la nationalité congolaise, mais qui gardent toujours aussi une autre nationalité étrangère pour des raisons, pas qu'ils ne sont pas patriotes, mais pour des raisons qui peuvent être évidentes, qui font qu'ils ont gardé la double nationalité. Alors, Maître Marc Gallo a estimé qu'il faut plus revoir, en tout cas, cet aspect de la loi où on dit la nationalité congolaise est une exclusive. Et il a également demandé si vous pouvez parler de la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Si vous voulez d'abord réagir par rapport à Maître Kigali, puis on reviendra à Platini.
Je vous remercie énormément. J'ai compris d'abord la première préoccupation, c'est le fait que j'ai cité le président Moïse Katumbi, mais vous savez que même quand on parle science, il devient aujourd'hui un secret de polichinelle que la proposition de loi Tchani, ok. Je pense que c'est aussi un élément qui permet aux auditeurs d'apprécier la valeur et la frontière de ce qui dit la loi et de ce qui s'est fait sous le dos de la loi. Et donc, en acceptant de dire officiellement qu'il s'agit en fait d'une loi qui oriente l'écriture normative vers les visées d'un individu, du point de vue politique. Ce n'est pas, je voulais dire, un cambisme politique, une publicité. Je n'en ai pas l'habitude, je connais les tenants de ce salon qui reste scientifique. Alors, par rapport au nationalisme et au patriotisme, bon, c'est des questions terminologiques. De mon point de vue, je n'ai jamais abordé l'approche définitionnelle parce que elle est trop limitée, du moins pour nos étudiants qui nous écoutent. Quand on dit nationalisme, ça part de la nation, et patriotisme, ça part de la patrie. Ok? Et de ces deux concepts, je ne vois pas d'ailleurs l'aspect beaucoup plus normatif du point de vue de l'État, parce que qui est nationaliste, c'est lui qui adhère justement aux valeurs culturelles d'une nation. Qui est patriote, c'est celui qui insiste beaucoup plus sur la survie de l'État et qui fait la promotion de cet État-là. Mais en réalité, du point de vue du droit, de l'anthropologie juridique, c'est des mêmes concepts. Peut-être au fond, il y a une petite démarcation, mais fondamentalement très proche.
Mais mettre en avant la nationalité congolaise, on peut être soit congolais d'origine, soit d'adoption, soit de naturalisation, mais on n'est pas aussi patriote par rapport à...
Aimer
vraiment son pays, parce qu'on voit des Congolais, on le dit souvent, il y a des Congolais qui prennent du plaisir à critiquer...
Votre orientation est dangereuse.
Oui.
On peut être Congolais, mais ne pas aimer son pays. Bon, je ne sais pas si vous avez un thermomètre pour évaluer le degré d'amour d'un pays, mais moi j'estime que le degré d'amour qu'on a pour son pays, c'est le degré de loyauté, ok, et ce degré de loyauté peut s'évaluer au travers l'engagement républicain. Comment vous participez à la confection, ok, de l'avancement de la République? Comment vous participez à l'émancipation, à l'éclosion des valeurs?
C'est là où on devient patriote, c'est justement ça. Non, c'est là, du patriotisme.
Et c'est comme ça que nous disons, même dans l'écriture de la fameuse proposition de loi dite Tchani, ce qui doit être mis en exergue, ce n'est pas le fait d'être des pères et des mères. C'est une résolution, d'ailleurs, j'ai la résolution. C'est une résolution numéro DIC-CPR-03 du dialogue intercongolais.
Oui.
Donc, c'est la classe politique organisée qui y a trouvé un consensus sur cette question. J'ai même vu des gens évoquer la constitution du Zaïre, mais je ne comprends pas ce mimétisme, comment il peut nous aveugler.
prendre un texte qui est dans un contexte dictatorial où on a évoqué justement la question d'abord pour être président de Zaïre, il faut être président du MPR et vous connaissez les conditions pour être président du MPR et on estime qu'on peut transposer cette réflexion aujourd'hui dans la dialectique d'une écriture d'un pays qui se veut démocratique, c'est tout à fait à côté de la plaque. Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais il faut rester technique. Je comprends pas ce que ça veut dire technique, mais comme il veut que je sois technique, voilà les quelques conditions qui entourent, parce que la nationalité est une question plurielle. Mais apparemment, celle qui intéresse l'opinion aujourd'hui, c'est par rapport à la fameuse loi, c'est la nationalité d'origine. Alors, la nationalité congolaise d'origine, au terme de la loi, veut dire quelque chose. Rapidement.
Allez-y.
L'enfant dont l'un des parents, deux points, les pères ou la mère est congolais, a la nationalité d'origine. Tout individu appartenant au groupe ethnique, des nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qu'est devenu le Congo, présentement la RDC, est congolais d'origine. L'enfant nouveau-né, trouvé sur le territoire de la RDC, dont les parents sont inconnus, est congolais d'origine. Toutefois, il y a une nuance. Il sera réputé n'avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est établie. Donc, on arrive à savoir que son père est là, sa mère est là. Et on parle de cinquième cas, comme je l'ai bien dit. L'enfant né en RDC, des parents ayant des statuts d'apatride ou des parents étrangers, dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'état d'origine, qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité affiliation naturelle.
Jus soli, le droit du sol, c'est...
Absolument. Oui. Donc, et du point de vue de cette transmission, il y a le jus soli et le jus sanguiné. On le devient par le fait qu'on vous a trouvé sur le territoire, c'est comme aux États-Unis, c'est le jus soli, et donc, quand vous, même si vous êtes des parents du Cambodge et la maman, et plutôt les pères du Cambodge et la maman viennent de Cap-Vert ou de Bangladesh, pour autant que vous êtes né sur le territoire américain, eh bien vous êtes américain. Mais en France, vous pouvez naître en France, mais si vos parents sont étrangers, vous prenez la nationalité de vos parents. Donc, la question ici n'est pas une question de croire que on résout un problème et on en laisse d'autres. Moi, j'ai dit, et les gens peut-être ne m'ont pas bien compris, en l'état de notre législation aujourd'hui, il n'y a pas un souci quant à la question des nationalités. Il y a plutôt un souci quant aux violations des acquis, des avancées démocratiques, parce que la loi est en fait la compilation des valeurs positives d'une société qu'on érige comme norme pour la régenter, la réglementer dans son fonctionnement et pour l'harmonie sociale. Si une loi commence à aller dans la discrimination, et c'est ça le sens de l'écriture de l'article 13, qui dit qu'aucune réforme ne peut aller dans le sens de discriminer des citoyens à partir de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine géographique ou bien tout ce que vous avez pu lire quand je l'ai dit. Et donc c'est cela le sens de l'esprit et de la lettre de l'état de notre législation sur la notion de nationalité aujourd'hui.
Maître, on va prendre la deuxième vague d'auditeurs, mais avant, si vous voulez rapidement répondre à Platini, lui il a évoqué le certificat de nationalité, la carte d'électeur, si vous voulez.
Bon, écoutez, je crois que le confrère qui vient d'intervenir tout à l'heure l'a si bien dit. Nous sommes dans un régime. Dans notre régime, la nationalité s'éprouve. Ok? On n'est pas congolais par présomption. Mais le document qui vaut pour prouver la nationalité, il est là. Mais cette analyse doit être très souple parce que tout le monde n'a pas accès à ces documents à partir du moment où l'unique autorité qui délivre les secrets de la nationalité, c'est le ministre de la Justice. Mais si vous êtes à Katakokombe chez moi, je salue tous mes compatriotes de Katakokombe. Si vous êtes à Kindu, vous êtes à Kwamout, à partir de quel document vous pouvez prouver votre nationalité? Mais nous avons les secrets de comment on l'appelle, la carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Et donc, ce n'est pas nécessairement l'unique document qui prouve la nationalité, le secret de la nationalité. Ça, c'est peut-être pour des questions électorales ou bien spécifiques. Mais je pense que quand vous avez un passeport congolais, c'est un document qui prouve votre nationalité. On ne voyage pas avec le secret de la nationalité pour quitter le Congo vers le Canada ou bien vers l'Afrique du Sud. Mais si vous allez dans un autre pays, vous donnez votre carte d'électeur, c'est un document qui permet à ces gens de vous identifier. Mais le mécanisme de la prouver est tout autre que celui d'identification. Donc, il y a un certain nombre de documents qui relèvent de l'administration publique, qui peuvent prouver la nationalité de quelqu'un, mais que, du point de vue spécifique, sur des procédures particulières, eh bien, il faut faire recours au secret de nationalité. Mais il faut rappeler que dans notre pays, je connais des gens qui attendent ce certificat depuis 3 ans. Il y a des tas et des tas de cartons qui attendent au ministère de la Justice parce que il semble que la ministre doit signer à la main. Dans d'autres administrations, il y a une signature dans l'ordinateur qui passe et que c'est parti parce que c'est un document important. Aujourd'hui, voilà. C'est plutôt les relevés bancaires. Je crois que c'est les bordereaux des banques qui fait office de secret d'identité. C'est un scandale, on n'en parlait pas.
Voilà, maître, on va poursuivre avec vous. Le temps pour nous d'accorder la parole aux auditeurs. Il y a Orsen qui nous appelle de Lubumbashi, Jean-Pierre qui est à Mweka, et il y a Jean-Marie qui est à Bounia. On va également lire Eric qui soit là, qui a écrit sur la page Facebook au Capi Service. Avant de lire sa réaction, on va d'abord aller à Lubumbashi pour écouter Orsen. Bonjour Orsen.
Et bonjour, monsieur Marcel, et bonjour, maître.
On vous écoute, Orsen.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur Marcel. En fait, je n'ai pas beaucoup à dire. J'aimerais juste savoir comment recouvrir la nationalité congolaise. Je vous donne un exemple. Par exemple, je pars en France, j'échange la nationalité, je deviens français. Et après un temps, je voulais un peu revenir dans mon pays. Est-ce que c'est possible d'échanger encore la nationalité pour acquérir la nationalité congolaise? Et en plus de cela, je voulais un peu demander au maître, quand est-ce que la nationalité peut être refusée à quelqu'un? Quelqu'un qui a déjà duré au pays, qui a fait même 20 ans, 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça, mais quand il demande la nationalité au gouvernement, on lui refuse. Cela est dit à quoi? Et quand est-ce que la nationalité peut être refusée à quelqu'un? Je dis et je vous remercie.
Merci Orsen depuis le Lubumbashi. Jean-Pierre, vous êtes à Mweka. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
C'est Marcel à l'antenne, Jean-Pierre. On vous écoute. Votre question par rapport à ces sujets sur les dispositions légales pour acquérir la nationalité congolaise.
Oui, merci, monsieur Marcel. J'ai entendu les interventions des invités et je suis très content de nous avoir éclairé quelques lanternes. Nous, les Congolais, on est générés envers tout le monde. Mais je voulais poser un peu la première question. J'ai quelques questions, mais la première question que je voulais poser à l'invité, quand est-ce que l'article C est congolais d'origine, que celui qui est né d'un père et d'une mère mauvaise a changé en est congolais d'origine, celui qui était dans le sol congolais avant l'indépendance? Ça, c'est la première question. Et c'était pour quel motif? Et l'autre question que je voulais poser, pourquoi la loi de Tchagne, qui est en train de faire beaucoup de problèmes aujourd'hui au Congo, ne pose de problème qu'à Katanga, comme ici chez nous au Kassai. On n'a pas ces problèmes-là. S'il y a même des émissions de nos radios locales ici, il n'y a pas de problème. Tout le monde est toujours pour cette loi-là, que cette loi puisse passer. Mais pourquoi ça pose toujours des problèmes à Lubumbashi, au Katanga? C'est ça au moins quelques questions que je voulais poser à l'invité.
Merci Jean-Pierre depuis Mweka. Et puis Jean-Marie qui nous appelle de Bounia. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bon, pour moi, merci pour la parole. Nous sommes en train d'assister à un phénomène-là, circuit ouvert, c'est-à-dire tous les temps, si on va vers cette démocratie, on crée toujours des problèmes qui peuvent énerver les gens. C'est pourquoi je dis qu'on cherche à terminer ça. Est-ce que les politiciens ne peuvent pas mettre fin à de telles situations entre eux-mêmes que de passer par là parce que ça commence à énerver les gens?
Merci Jean-Marie depuis Bounia. On va lire cette réaction de M. Ri qui soit là depuis Kinshasa dans la commune de Djili. Bonjour Radio Okapi. Maître, dites-moi concrètement, la nationalité congolaise est exclusive. Cette exclusivité signifie quoi? Elle est simplement théorique ou pratique? En effet, on apprend que beaucoup de nos politiciens ont une multiplicité de nationalités, y compris la nationalité congolaise. À quoi consiste cette exclusivité? Ceux qui ont plusieurs nationalités peuvent-ils être considérés comme hors la loi? Oui ou non, si pourquoi? Et si oui, pourquoi ils ne sont pas justiciables? Sinon, pourquoi? Et en quoi la loi Tchani, puisque vous en avez fait allusion, est un problème quand elle protège les Congolais? Voilà, si vous pouvez bien commencer par d'abord cette réaction de M. Eric Issoala, qui nous a écrit depuis Kinshasa. Il a cherché à savoir, on parle de la nationalité congolaise qui est exclusive, et ça signifie quoi? Et elle est simplement théorique ou pratique, parce que d'après lui, il y a beaucoup de Congolais qui ont double nationalité ici. Et puis, il veut savoir si... on a une double nationalité, est-ce qu'on peut être justiciable devant la loi? Et si oui, pourquoi on peut être justiciable? Sinon, pourquoi aussi? Et il a également parlé de cette loi Tchani. On peut pas parler de nationalité sans en tout cas évoquer ces projets de loi Tchani. Alors il a dit, puisque vous en avez fait allusion, alors que c'est un problème sinon pourquoi et en quoi la loi Tchani, puisque vous en avez fait allusion, est un problème quand elle protège les Congolais?
Je vous remercie énormément. Déjà, j'ai dit que l'état de l'écriture sur l'exclusivité de la nationalité relève de ce que j'appelle avec mon maître Dieudonné Kalouba les tabous constitutionnels, c'est de l'hypocrisie constitutionnelle. C'est des notions que nous enseignons à l'université de Kinshasa avec mon maître. C'est un cours important de Gossa Citoyenneté où il y a toute une section sur les non-dits de la constitution.
Vous avez parlé de l'hypocrisie constitutionnelle.
Hypocrisie constitutionnelle.
Et il faut sortir de cette hypocrisie.
Voilà, donc les constituants savaient. Mais à l'époque, il y a eu un vent du point de vue de l'histoire de cette écriture. Il y a eu cette menace des pays voisins et qu'on ne voulait justement pas que ces gens aient la nationalité congolaise. Et donc, on a fait le choix d'exclure parce que il y avait la forte tendance que les pays voisins voulaient avoir aussi la nationalité congolaise. Mais que cela ait un préjudice parce que beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, quand ils changent de nationalité, ce n'est pas nécessairement qu'ils n'aiment plus le Congo. Mais en fait, c'est pour se mettre en ordre avec l'administration de leur pays d'accueil.
Exactement.
Maintenant, il faut un courage extraordinaire pour décider de l'option de la double nationalité. Maintenant, pour en venir justement aux faiblesses de la proposition à laquelle lui-même fait allusion, mais si nous commençons déjà à poser problème aux Congolais dits ou de nationalités d'origine, quand arrivera la discussion sur les Congolais des doubles nationalités, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi dire que les Congolais qui ont de la double nationalité ne peuvent pas aller à la compétition suprême, à la magistrature suprême. Mais c'est une discrimination. Mais par vocation, une loi doit être impersonnelle. Ce caractère impersonnel ne veut pas seulement dire que on va prendre ça en aval, pas en amont, ou bien ça ne peut aller que dans tel ou autre sens. Autant, la discrimination personnalise la loi. Et donc, ça lui ôte son caractère impersonnel. Nous sommes des Congolais. Ce qui doit primer dans nos rapports avec l'État, c'est la loyauté et notre engagement républicain. Et c'est comme ça que je comprends les exemples de Monseigneur Cholet qui parle de Mamadou Ndala qui est mort en train de défendre le territoire congolais. Mais il y a des Congolais qui sont en prison du fait d'avoir vendu des armes aux ennemis. Quel est le choix que nous faisons? Maintenant, quand on parle de loyauté, je voulais bien poser la question. Cette loyauté-là s'évalue seulement au niveau des pères et des mères. Alors, prenons le courage de dire, je propose ce que j'appelle, moi, dans ma théorie, le droit juridique biologique, que pour participer à une compétition électorale à un certain niveau, par exemple à la magistrature suprême, qu'on puisse, brandir le certificat d'ADN, parce que la seule personne dont on est sûr comme parent, c'est sa mère. Et la question ici parle de père et de mère. Évoquons avec courage pour dire que pour déposer son dossier, vous devez avoir prouvé que vous êtes le fils de votre père. Deuxième chose, parce que la même crainte d'appartenir à des nations pour infuser la République peut s'observer au niveau des parents,
Mais si vous avez un grand-père qui vient d'Angola, qui vient du Rwanda, qui vient de l'Ouganda ou bien de l'Égypte, et qu'il y a un conflit entre le Congo et l'Égypte, vous pouvez aussi faire allégeance à l'état de votre grand-père. Donc, allons jusqu'à ce niveau-là, c'est ça le courage. Et aussi, parce qu'il s'agit de la souveraineté, comme on veut bien le dire, renforcer cette souveraineté avec des valeurs morales. Pourquoi ne pas évoquer la question du diplôme ? Pour dire qu'on en a marre avec les apprentis et de stagiaires au sommet de l'État, exigeant que pour postuler à ce niveau-là, vous devez avoir justifié d'un diplôme, par exemple, post-universitaire. Mais qui doit avoir un jury qui établit, parce qu'il y a assez de problèmes à ce niveau-là, qui en prouve la qualité. Pas le discours, pas que les gens confondent avoir le niveau intellectuel et le blabla. Moi, mes enfants parlent français comme s'ils étaient en France.
Alors, maître,
ils n'ont pas nécessairement le niveau.
On pourra toujours revenir
à... Alors, je réponds à la dernière préoccupation, parce qu'il a dit, pourquoi c'est seulement les Katanga? Moi, je suis curieux de savoir que quand j'ai fait... J'emballe la discussion de l'aspect politique pour que vous compreniez le côté technique.
Oui.
On me reproche de défendre Moïse Katumbi. Mais quand vous faites allusion au Katanga, et vous dites, vous êtes à Kananga, vous-même vous avez la réponse. En réalité, les gens ont compris que c'est une loi qui est défendue par un groupe, un des Congolais, pas dans l'objet ou dans le but de protéger je ne sais pas moi quoi, mais que ça vise une personne. C'est cela l'explication. En conclusion, c'est une loi qui a des souches et des velléités, des conflits, et ça n'avance pas la République.
Maître, on va vous donner l'occasion de conclure. On va rappeler la réalisation
voilà.
Du Facebook. Il y a un dernier auditeur en ligne, c'est Fidèle qui nous appelle depuis les territoires de Harou. Fidèle, vous êtes à Harou. Bonjour Fidèle.
Bonjour Radio Capi, bonjour également l'invité. Je suis Fidèle policier depuis Harou.
Voilà, Fidèle, rapidement, en une minute, votre question ou préoccupation.
Oui, je voulais poser... Ma question s'adresse à l'invité.
Rapidement, oui, allez-y.
Monsieur l'invité.
Oui.
Monsieur l'invité, est-ce qu'un enfant bâtard né sur le sol congolais, de père et de mère est connu, a-t-il une place dans la politique congolaise? Et si oui, quels sont les moyens civiques qui peuvent l'accompagner? Merci pour la parole.
Merci Fidèle de Piarou. Alors avant de répondre à Fidèle, maître, il avait cette préoccupation de Orsène qui a dit comment on peut recouvrer la nationalité congolaise si à un moment on avait perdu assez de nationalité, on a eu notre nationalité, et à quel moment la nationalité congolaise peut vous être refusée?
Bon, écoutez, c'est, j'ai beaucoup de questions moi-même, les gens m'écrivent et tout.
Oui.
Bon, je dois, d'abord je commence par le dernier auditeur, parce que ça m'intéresse beaucoup, il parle d'un enfant bâtard. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Nous avons un problème de conscience collective. Nous avons un problème de... On a beaucoup de lois. Eh bien, les lois n'ont aucun sens s'il n'y a pas de mécanisme de leur application. Même notre constitution, avec 229 articles, elle n'est pas appliquée complètement. Elle n'est pas appliquée. Vous savez, on a mis combien de temps pour connaître la décentralisation. Aujourd'hui, même la question de la gratuité devient comme si c'était une trouvaille alors que c'est dans la Constitution. Et donc, la loi n'a aucun sens. Un enfant bâtard, soit-il bâtard, c'est un enfant. Et donc, cet enfant a une vie. La loi congolaise protège le fœtus. Donc, à partir du moment où une femme, ok, son cycle est fermé, ça signifie que elle est grosse de 30 secondes, la loi congolaise interdit, ou bien plutôt protège ces fœtus-là. À combien plus forte raison, une personne humaine, née, mais qui peut avoir des soucis. Quand vous dites bâtard, moi c'est des concepts qui me font un peu trop mal, je n'aime pas trop les répéter, mais en tout cas, cet enfant a tout le droit de jouir de la protection de l'État, autant que toute personne voulue, viable, et tout ce que vous voulez.
Alors comment la nationalité congolaise peut vous être refusée, alors que vous, peut-être vous avez vécu, comme vous l'avez dit...
On perd la nationalité congolaise parce qu'elle est exclusive à l'état de notre législation aujourd'hui.
Oui.
Aussitôt que vous avez une nationalité étrangère, elle est exclusive, en fait, elle rejette une autre nationalité.
Exactement.
Ok. Maintenant, les mécanismes, je ne vais pas ici vous livrer un exercice... jurisprudentiel, il y a beaucoup de décisions. Je sais que dans ces pays, il y a un premier ministre qui a été nommé et que quelques jours après, les gens ont dit, mais attends, vous avez nommé un premier ministre qui est belge. Mais eh bien, il a fait semblant de renoncer. Mais il faut bien voir, est-ce que quand vous renoncez à votre nationalité, l'État belge vous a aussi effacé sur son livre? C'est cela la question. Mais s'il faut faire, il faut démontrer ou faire constater sa nationalité, eh ben, il faut uniquement y renoncer. Renoncer à la nationalité étrangère pour la recouvrer, mais il y a une procédure. C'est-à-dire que le ministre de la Justice doit prendre un arrêté pour vous réhabiliter. Mais que, pour la perdre, c'est la chose la plus facile. Aussitôt qu'il est établi que vous avez une nationalité concurrente, vous perdez la nationalité congolaise d'office.
Et que ça peut vous être refusé lorsque, comme vous l'avez dit, vous êtes resté pendant longtemps dans le pays, et puis vous avez vraiment manifesté de votre intérêt pour le pays, et que vous sollicitez cette nationalité, mais ça peut vous être refusé.
Mais c'est un peu comme Jésus pouvait vivre pendant 100 ans à Jérusalem, mais que si vous n'en avez pas fait la demande et vous n'avez pas prouvé l'intérêt, encore moins l'ancrage que vous pouvez désormais vous réclamer de cet État, eh bien vous allez rester dans cette situation-là. Et l'État, il va de la libre, de la libre administration de vous l'accorder. Parce que vous pouvez avoir fait 50 ans au Congo, mais que vous avez un passé djihadiste. Et que vous pouvez être une menace pour l'État congolais. Ok? Il y a des gens aujourd'hui, ne fût-ce que par les propositions de loi qu'ils font, sont une menace. Et donc, si les Congolais estiment que vous êtes devenu une menace, même si vous êtes un citoyen américain, français, belge, et qu'ils vous refusent la nationalité, ils sont libres. Et donc, vivre sur un territoire ne vous donne pas le droit d'être naturalisé. Il faut présenter de l'intérêt, de l'ancrage et montrer en quoi vous êtes rattaché aux valeurs de cet État, aux valeurs culturelles de cette nation.
Alors maître, on va se quitter. Peut-être que vous avez aimé ajouter quelque chose sur ce qui est des dispositions légales pour que la nationalité congolaise rapidement et puis on va se séparer.
Bon, écoutez, j'insiste ici seulement sur la constitution congolaise, conformément à son article 10, qui insiste sur la question de la nationalité. Ok? Il n'y a pas meilleure écriture, parce que la loi est un consensus social, ok, qui naît de la compilation de nos valeurs positives qu'on érige sous forme d'une norme. Et donc, si nous voulons la renforcer, ça doit aller dans le sens d'en renforcer le droit et liberté, pas de les grignoter au profit des velléités, parce que la loi évolue dans la durée et ce que nous pouvons croire aujourd'hui être bénéfique pour le Congo ou pour un pouvoir ou pour une gouvernance peut être demain une sorte de suicide législatif et que ça ne va pas avancer la République. Nous devons aller dans le sens d'écrire des lois, de proposer nos lois dans le sens plutôt de renforcer l'unité, la cohésion nationale, pas dans le sens de diviser les Congolais, parce que ce qui compte pour une nation, pour un État, c'est l'engagement républicain, c'est l'engagement citoyen, et c'est celui-là qui compte pour faire avancer la nation, pas la discrimination.
Maître Laurent Onyemba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, merci d'avoir été des nôtres pour parler de ces questions sur les dispositions légales pour accueillir la nationalité congolaise. On espère vous retrouver prochainement.
Tout à fait volontiers, et je vous remercie énormément de me retrouver dans cet exercice assez pédagogique, et vous pouvez compter sur ma disponibilité à chaque moment que vous avez besoin de moi.